Voilà, bonsoir à tous. Je voudrais vous inviter à ouvrir, s'il vous plaît, dans la lettre, deuxième lettre de Paul à Timothée. De Timothée, chapitre 4, s'il vous plaît. Verset 6, de Timothée, chapitre 4, verset 6. Alléluia. Il est dit, c'est Paul, dans cette lettre, dit à son collaborateur, Timothée, enfant dans la foi, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je voudrais vous inviter à faire une deuxième lecture dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, s'il vous plaît. Nous lirons à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Frères et sœurs et amis, je voudrais ce soir nous interpeller sur le bon combat. Je ne sais pas dans quel combat on peut se trouver, mais je crois que chacun d'entre nous, à des moments donnés de notre vie, eh bien, nous avons des combats à vivre, à lutter. Et Paul, à la fin de sa vie, il dit, « J'ai combattu le bon combat. » Et je crois, frères et sœurs, que c'est important que nous combattions le bon combat. Qu'est-ce que c'est que le bon combat? C'est une question qui, je pense, est intéressante et je pense que ce soir ne suffirait pas pour débattre là-dessus, pour partager la parole de Dieu, mais Paul, lorsque nous regardons la vie de Paul, depuis le jour où Dieu s'est révélé à cet homme, et bien jusqu'à la fin de sa vie, il y a eu des luttes, il y a eu des combats. Et c'est lui-même qui, dans le livre aux Éphésiens, chapitre 6, enfin dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il dira, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Ça veut dire que nous n'avons pas à lutter contre notre semblable, contre notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, notre voisin, etc. Nous n'avons pas à livrer des luttes contre la chair et le sang ou à exprimer une lutte par la chair et le sang. Hein? Et le Seigneur Jésus, nous l'avons vu dans cette lettre de Paul, il dit que il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je crois que s'il y a bien un exemple d'obéissance, c'est bien notre Seigneur. Mais je découvre ici, enfin nous découvrons ensemble, nous l'avons certainement lu, il dit, il s'est rendu obéissant. Voilà. Donc nous pouvons comprendre qu'il a décidé d'obéir. Et dans cette décision d'obéir, nous savons, frères et sœurs, que le Seigneur a livré bien des combats, et en tout cas, la dernière, pour le salut de notre vie. Et alors qu'il est à quelques heures de l'exécution à Golgotha, dans le jardin de Gethsémané, nous voyons qu'il y a un combat qui se livre. Et il va dire, Père, tout est possible. Tu peux toutes choses. Tu peux m'éloigner de cette coupe, éloigner de moi cette coupe. Nous voyons que, malgré qu'il sait que c'est la volonté du Père, mais nous voyons que là, en tant que pleinement humain, il y a ce combat. Et je crois, frères et sœurs, et nous tous qui sommes ici, que si le Seigneur il a eu à livrer des combats, nous aussi, nous en aurons. Vous en avez certainement eu, vous en aurez encore. Et pourtant, le Seigneur s'est rendu obéissant. Voyez, il a décidé de vivre une vie d'obéissance et de soumission au Père. Et je crois, frères et sœurs, que vous comme moi, à un moment donné de notre vie, nous avons pris également le même engagement de vivre une vie d'obéissance et de soumission à notre Dieu. En tout cas, si ce n'est pas votre cas, je voudrais dire que ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance et la soumission plus que les sacrifices, plus que tout ce que nous pourrons faire comme œuvre. Ce que Dieu cherche avant tout dans le cœur de son enfant, de sa servante comme de son serviteur, c'est un cœur obéissant et soumis. Et c'est ce qui caractérise notre Seigneur. C'est ce qui a caractérisé l'apôtre Paul aussi. Et à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il a livré des combats. Et notre Seigneur a livré des combats. Et la Bible nous dit que lorsqu'il était dans Gethsémané, alors qu'il était en proie à l'angoisse, un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Il a eu besoin, notre Seigneur, dans cette vie d'obéissance, de l'assistance de Dieu. Et frères et sœurs, dans notre vie d'obéissance, si nous réalisons que le combat auxquels nous pouvons être confrontés, se passe sous la permission de Dieu, parce que dans ces combats, Dieu cherche, Dieu vise des objectifs pour nous, que toute chose qui nous vient de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard, mais ce que Dieu fait est bon. Même lorsque Dieu nous conduit dans une situation difficile, c'est parce que c'est une nécessité vitale pour nous. Nous devons vivre cette victoire. Et quand il y a combat, il y a forcément victoire. Alléluia. Mais il faut combattre le bon combat. Et ce combat, nous venons de lire, ce n'est pas avec des armes charnelles, mais c'est avec les armes de notre Dieu. Et je voudrais que ce soir, pour étayer un peu plus ce que je veux vous partager, je vous invite à venir au commencement, dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse au chapitre 32. Le contexte de ce passage nous montre que Jacob a reçu de Dieu la parole de retourner vers le pays, vers sa patrie, vers son pays de naissance, vers son père. Et Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute sa famille. Et il prend la route de Canaan. Et là, sur la route, alors qu'il est à la porte d'entrée dans Canaan, de traverser le Jourdain pour retrouver son père, il est confronté à une difficulté. Et c'est ce que nous allons lire. Il dit, chapitre 32, verset 24, « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller !» car l'aurore se lève, c'est l'homme qui dit ça. Hein? Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Je crois, frères et sœurs, que le bon combat, c'est de lutter avec Dieu, mais pas de lutter contre Dieu. Voyez? Et je crois que parfois, comme c'est le cas ici, Dieu va arrêter Jacob, il va lutter avec Jacob pour que Jacob entre dans une autre vie, une autre dimension de la vie qu'il n'a pas eue jusqu'à présent. Jacob, nous le savons, ça veut dire supplanter, tromper. Et lorsque on regarde la vie de Jacob, on voit que jusque-là, Jacob a toujours triché. Voilà. Je vais employer un mot qui... ce n'est pas un mot grossier, mais il a toujours magouillé. Voyez? Et on voit que cet homme a été béni. Malgré cela, Dieu l'a béni. Hein? Voilà. Il faut se méfier de la bénédiction, frères et sœurs. Hein? C'est vrai que Dieu, il nous bénit parfaitement, hein? Voilà. Mais il ne faut pas se laisser détourner de la vérité par rapport à la bénédiction. Voyez? Et là, alors qu'il va rentrer en Canaan et qu'il va entrer dans une dimension de sa vie, le Seigneur va l'arrêter. Voyez? Et je crois que parfois, les frères et sœurs, il peut arriver que Dieu nous arrête. Voilà. Dès qu'on est en panne, ça n'avance pas. On est sur place. On fait des efforts, mais ça patine. Et la motivation, elle bat de l'aile. Alors, il faut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de s'opposer parce que nous avons un combat à mener avec lui? Pourtant, jusqu'ici, Jacob, il est sur le chemin de l'obéissance. Et je vous encourage, je nous encourage ensemble, frères et sœurs, à marcher dans l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est ce qui plaît à Dieu. Parce que ce qui a détourné l'homme de Dieu, c'est la désobéissance. Donc, quand nous revenons vers Dieu, Dieu reconstruit l'obéissance en nous. Voilà. Mais vous savez comme moi que Dieu, c'est un père parfait. C'est un parfait pédagogue, éducateur. Voyez ? Et nous savons que dans l'éducation de nos enfants, on n'éduque pas un enfant de 3 ans comme on éduque un adolescent. C'est pas la même chose. Mais l'éducation s'est faite tout le long. Voyez ? Voilà. Et c'est important que l'éducation de l'enfant soit faite avec régularité tout le long de sa vie, parce que si on a loupé des étapes, eh bien, on va ramasser à l'adolescence. Voyez ? Quand il y a l'adolescence, c'est l'explosion de la rébellion qui se fait là. Parce qu'il y a une étape importante dans la vie de l'adolescent. Bon, je ne sais pas, il faut vous faire un cours de psychologie. Mais c'est pour dire que dans notre vie, il y a également des temps de crise qu'il faut bien négocier. Voilà. Et ici, Jacob, il va traverser le gué qui l'emmène dans le pays de sa destination. Vous voyez ? Mais il y a un mais. Il y a son passé qui le rattrape ici-là. Vous voyez ? Et je voudrais, frères et sœurs, nous interpeller par rapport à quelque chose qui peut nous poser problème dans notre vie. Notre passé. Vous voyez, l'ennemi, il aime bien nous rappeler le passé. Hein. Voilà. Mais Dieu, afin de nous accuser, hein, ça c'est le travail de l'ennemi, nous rappelle le passé pour nous accuser. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous met face à notre passé, c'est pour nous en guérir. Voilà. Y aurait-il quelqu'un ici ce soir qui a un problème avec son passé? Je crois que, comme cela a été dit dans les chants, le Seigneur n'a pas diminué dans sa puissance. Vous voyez? Je crois que le Seigneur, ce soir, sa volonté, c'est de vous guérir. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que je dis. Hein? Vous pouvez dire amen si vous êtes d'accord. Oui. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, qu'il y a parfois des échecs. Il y a parfois des difficultés qu'on a vécues dans le passé. Il y a parfois des douleurs, des situations douloureuses qu'on a vécues, traversées dans le passé, et sur lesquelles on a jeté un peu de terre, le temps, en pensant que le temps va solutionner. Vous voyez? Mais il traverse le temps. La solution, c'est d'en guérir. Et Jacob doit guérir de cette situation parce que sinon, ça risque de lui poser problème dans la suite. Ce sera une fissure, une entrée, une ouverture pour l'ennemi si ce problème n'est pas résolu, n'est pas réglé. C'est pour cela que, frères et sœurs, je nous invite ensemble à combattre le bon combat, à se mettre du côté de Dieu dans ce combat que nous livrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce combat, Jacob ici, quand on regarde Jacob arriver ici, il va encore essayer de magouiller. Vous voyez? Il va essayer encore d'acheter son frère. Il va lui envoyer des troupeaux. Il se dit, peut-être que quand il va voir, ça va toucher son cœur, il va être apaisé et puis il va pouvoir se réconcilier. Vous voyez? Mais son frère, il vient avec 400 personnes. Alors, c'est pas pour faire bon accueil. Hein. C'est pas le comité d'accueil, ça, pour l'entrée à Canaan. Non. 20 ans, on s'est séparé, ces moments à peu près. Vous voyez? Donc, en 20 ans, c'est pas possible que ce soit les enfants d'Ésaü. 400 enfants. Non. C'est que Ésaü, il est certainement venu avec une armée. Pas pour embrasser son frère. Voilà. Mais certainement pour se venger de son frère à cause du droit d'aînesse, de la bénédiction d'Isaac. Alors, voyez, il va envoyer, et puis, cette nuit-là, il va rester. Et il s'est passé quelque chose, parce qu'au milieu de la nuit, enfin, pendant la nuit, alors qu'il a décidé de passer la nuit sur la rive, cette nuit-là, il va décider de passer sur l'autre rive. Vous voyez? Il avait la possibilité. En tout cas, moi, ça m'interpelle sur le combat qui se passe en lui. Va-t-il entrer? Oui ou non? Mais s'il entre, il va être confronté à son frère. Donc, il a dit peut-être que je vais rester sur cette rive et je vais voir comment ça se passe. Au moins, pour qu'il traverse, là, j'aurai peut-être le temps de fuir, ou etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, il nous est dit ici que Jacob va prier. Voilà. Il dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, hein, chapitre 32, verset 9. Toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, c'est-à-dire tout seul. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Voilà. Après cette prière, il va prendre la décision d'aller de l'autre côté. Voilà. Je crois que c'est toujours la bonne solution, c'est de s'enfermer un moment dans la chambre secrète, dans notre chambre. Et là, de prendre du temps avec Dieu. Voilà. Il y a des choses où, en tout cas en ce qui me concerne, il y a eu des situations où on dirait qu'on n'a pas le temps de prier, il faut agir. Vous voyez? Voilà. Il faut agir, parce que prier, ce serait perdre du temps. Ben non, justement. Prier, c'est gagner du temps. Voilà. Prier, c'est prendre du temps. Et lorsque Jacob a prié, là, je crois que quelque chose s'est passé. Il n'est pas dit ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps de prière, dans ce temps de prière, pour que lui, finalement, il prenne la résolution cette nuit même de passer. Voilà. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Et je voudrais vous encourager ce soir à lutter avec Dieu. À prendre le temps au pied du Seigneur. Le temps qu'il faudra. Voyez? Le monde peut paraître, oui, mais c'est pressé, il faut. Prends du temps. Parce que Dieu, s'il le voulait, il ouvrirait la mer devant toi. Voilà. Mais si c'est bloqué jusqu'à présent, c'est que Dieu a besoin que tu te tiennes devant lui. Alors là, combattre avec Dieu, c'est s'assurer la victoire. Alléluia. Oui. Pourquoi? C'est David qui le dit. La victoire appartient à l'Éternel. Voyez ? Quand on combat avec Dieu, nous sommes assurés de la victoire. Oui, je le répète, quand nous combattons avec Dieu, nous sommes assurés de la victoire. Amen. Il y a des situations qui pourraient nous emmener à vouloir agir, à faire des choses, ceci, cela, etc. Prends du temps. Ça prendra un jour, deux jours, une semaine, un mois, je n'en sais rien. Mais je sais une chose. C'est quand quelqu'un crie à Dieu, Dieu répond. Voyez ? Oui. Et il répond de plusieurs manières. Soit directement, dans ce temps de prière, ou soit dans la lecture de la parole, ou soit dans une rencontre avec un frère, ou soit dans une prédication. Alors, peut-être que dans la situation que tu te trouves, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis en panne, je ne sais pas dans quelle direction prendre. Lutte avec Dieu. Entre dans ta chambre et là, lutte avec Dieu. Et lutter avec Dieu, c'est s'assurer la victoire. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur, il a fallu qu'il choisisse les 12 qui vont être ses apôtres, il a passé toute une nuit avec le Père, alors que lui, il est Dieu. Alors nous, combien plus? Voyez? Voilà. Ils ont certainement dû discuter avec le Père de chacun des apôtres. Même de Judas. Hein? Oui, celui-là, il va te trahir, mais il fait partie du plan. Voyez? Voyez combien les choix de Dieu ne sont pas vraiment nos choix, hein, quand on prend au détail les autres. Hein? Jacques et Jean, veux-tu qu'on fasse descendre du ciel la foudre? Voilà. Ou Pierre qui est prêt à renier devant. Voilà. Lorsqu'on regarde, eh bien, je crois qu'il y en a certains, beaucoup, qu'on aurait éliminés. Voyez? S'ils étaient candidats à quelque chose. Frères et sœurs, nos armes ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Si vous voulez la référence, 2 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 4. Éphésiens 6, 12, nous avons lu tout à l'heure, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Ne lutte pas contre ta femme. Vous allez vous détruire. Entre dans la chambre. Parle à Dieu. Parle à ton père. Voilà. Ne lutte pas contre ton mari. Ne lutte pas contre ta sœur. Ton frère de chair. Non. Va dans la chambre. C'est la meilleure solution. Parfois, notre orgueil veut nous... Que oui, ça c'est tourner le dos, c'est la défaite. Ça c'est la conception humaine des choses. Hein? Ne lutte pas contre ton patron. Il est trop dur. Oh, prends du temps dans la présence de Dieu. Ne lutte pas contre ton collègue qui te pose des problèmes au travail. Ça ne sert à rien. Vous voyez? Non, va dans la présence de Dieu. Et frères et sœurs, je crois que nous pourrions partager beaucoup de choses en ce qui concerne lutter avec Dieu, mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Voilà. Laissez Dieu combattre. Et ça, David, il a bien compris. Quand il s'est lancé sur le champ de bataille, il sait que la victoire appartient à l'Éternel. Lui, il n'est que la partie visible du combat. Mais celui qui apporte la victoire, c'est Dieu. C'est vrai, c'est lui qui a tiré avec la fronde, qui a frappé le Philistin en plein milieu du front, mais c'est Dieu qui a conduit tout cela. Voyez ? Alors que ce géant, depuis des jours et des jours, il tenait tête à l'armée d'Israël. Quel est le géant qui se dresse devant toi et qui t'a servi peut-être depuis des années? Je voudrais qu'on termine en lisant Exode chapitre 14. Voilà. Vous savez, des fois, quand la situation est difficile, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Il n'y a que deux positions possibles. Soit avancer ou reculer. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et les enfants d'Israël, lorsque nous regardons, lorsque Moïse est venu leur annoncer que Dieu lui est apparu, etc., la Bible nous dit qu'ils se sont prosternés et remerciés Dieu de ce qu'il les a visités. Mais là, lorsqu'ils vont être confrontés d'une part à la mer Rouge et d'autre part à l'armée égyptienne, ils vont dire... On t'a pas dit qu'il valait mieux qu'on reste en Égypte et puis qu'on meure en Égypte? Il n'y a pas de tombeau là-bas pour que tu nous emmènes au désert, pour qu'on meure ici dans le désert. Voyez? Lorsqu'ils ont eu faim, ils ont dit, mais là-bas, en Égypte, il y a les concombres, il y a la viande, il y avait tout ça, on avait tout ça, et puis tu nous mènes ici pour mourir de faim. Oui, il y avait peut-être les concombres, mais il y avait l'esclavage, quoi. Mais ça, il a disparu, l'esclavage de l'esprit. Voyez? Alors, c'est pour dire, frères et sœurs, combien dans ces situations nous avons besoin de nous rappeler d'où le Seigneur nous a tirés. Voyez? Voilà. Chapitre 14, Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple. Voilà, il faut peut-être lire à partir de verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-on fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, laisse-nous être des esclaves des Égyptiens, car nous aimons mieux être esclave des Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez? Voilà. Je voudrais encourager quelqu'un en particulier pour dire, ne recule pas. Parce que ce qui est derrière toi est pire que ce que tu as déjà vécu. Mais saisis par la foi la victoire en Jésus-Christ. Et Moïse va dire, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, l'Éternel combat pour toi. Voilà. Comment se fait-il que c'est lui qui a dit aux enfants d'Israël de sortir et puis ici, ils vont devoir livrer combat? Il y a comme un non-sens. Mais ils sont dans l'obéissance. Et pourtant, ici. Voilà, frères et sœurs, je crois qu'on va terminer là, mais c'est pour simplement nous encourager à vraiment, dans toute situation que nous vivons et nous traversons, combattre avec l'Éternel. Israël, tu t'appelleras plus Jacob, c'est-à-dire magouilleur, si je peux dire, trompeur, supplanteur, mais maintenant tu t'appelleras Israël, celui qui a combattu avec l'Éternel et qui a été vainqueur. Alléluia. Et je crois que nous pouvons tous être des enfants d'Israël. Alléluia. Nous le sommes en quelque sorte, puisque nous sommes les enfants du Père au travers de Jésus-Christ, descendant de Judas, qui est un fils de Jacob. Alléluia, fils d'Israël. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. pour la grâce qu'il nous est donnée ce soir de prendre ce temps pour être à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu sais mieux que moi, Seigneur, interpeller chacun des cœurs. Et je crois que tu le fais, Seigneur. Et donne-nous, donne à mes frères et sœurs, de sortir de ce lieu en choisissant de combattre par la foi, de combattre le bon combat, de lutter avec toi dans tout ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent. Alléluia. Parce que nous croyons que, Seigneur, tu es celui qui nous garantit la victoire. Certainement pas comme nous le voulons, mais Seigneur, nous voulons vivre la victoire que tu nous donnes parce que c'est la plus belle des victoires. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.